Max, 7h55 minutes, pas facile en ce moment sur les routes. Ben, ça n'a pas été une semaine facile.
Vraiment pas. Il y a eu un incident aussi qui s'est ajouté là, dans les dernières minutes à un endroit où c'était déjà pas facile. C'est Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et l'avenue Chauveau. Il y avait un accrochage. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est terminé. Ça semble commencer à aller mieux dans le secteur. Fait que bonne nouvelle. C'est encore pas mal difficile, cela dit, sur Capitale-Ouest avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Capitale-Est aussi des problématiques. Hauteur Robert Bourassa. Sur Robert Bourassa Sud, directement là, vers le boulevard Le Bourgneuf, on le sait, comme chaque matin, pas mal jamé. Pierre-Bertrand Sud, vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge aussi. La 40 Est, petit ralentissement qui se fait sentir entre Duplessis et Henri IV, secteur des ponts. Un autre quand même bon bordel le matin pour passer de la rive sud à la rive nord. Et les fameux travaux, je remonte plus haut, là. Laurentienne Sud vers rue de la Faune, ça fait que c'est encore tough à matin sur Laurentienne.
La bonne nouvelle, le soleil brille en ce jeudi matin, on est à 3 degrés. Le maximum qu'on va atteindre aujourd'hui, c'est 13 degrés. Le chef du Parti conservateur du Québec est avec nous en studio. Éric Duhaime est là. Monsieur Duhaime, bon matin. Merci
bon
d'être
matin,
là.
Mais c'est un plaisir.
Comment vous allez ce matin?
Très bien.
Oui. On va jaser décote. Oui. On parlera d'autres choses aussi, mais on en a-tu parlé de cette fameuse décote? Monsieur Duhaime, est-ce que c'était écrit dans le ciel là, lorsqu'on regarde la situation financière du Québec, les déficits records aussi, que la décote s'en venait côté crédit?
On en avait parlé lorsqu'il y a eu le budget il y a quelques semaines déjà. Nous autres, on disait, écoutez, là, l'année passée, on s'était fait avertir par les agences de notation, par le milieu des affaires. 11 milliards de déficit, c'est inacceptable au Québec. On a un déficit structurel, ça veut dire qu'on emprunte payer l'épicerie, payer le loyer, payer là, les biens essentiels, le nécessaire. Et cette année, au lieu d'arriver avec un déficit plus modeste, ils sont arrivés avec un déficit de 13,6 milliards. Puis, tu sais, le ministre des Finances, Éric Girard, là, on disait tout souvent que c'était un gouvernement de comptable à CAQ, hein? Mais là, ce qu'on voit, c'est un gouvernement de comptabilité créative. Il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Il anticipe des revenus. Je vais vous donner des exemples bien concrets. Il anticipe des revenus sur l'impôt sur le gain en capital que le fédéral vient d'abolir. Fait que ça n'aura jamais lieu. Mais, puis les deux partis à Ottawa, et M. Carney et M. Poilievre, sont contre. Fait que c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas. Mais lui, il anticipe un des revenus à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il pense que c'est Jack Metzing qui va gagner ou le Bloc québécois. Là. Mais il y a...
Ben, si le Bloc devient premier ministre au Canada, on s'en reparlera. Là, je comprends plus les élections. Là.
Non plus, je pense qu'on va faire d'autres choses dans la vie. Mais c'est ça. Fait que, je veux dire, il y a de la comptabilité créative. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de rigueur. C'est un gouvernement qui a... Je rappelle, là, il avait promis de couper 5 000 emplois dans la fonction publique. Ils en ont embauché 11 000 de plus. Ils nous avaient promis un budget équilibré. Ils nous ont présenté le pire déficit de l'histoire du Québec. Ils nous avaient promis des entrées de revenus en exploitant notre gaz naturel au Québec. Ils ont adopté une loi pour empêcher toute forme d'exploitation du gaz. C'est un gouvernement qui avait promis des hôpitaux privés pour amener de la concurrence, pour amener de l'argent neuf. Il a fait exactement le contraire. Il a interdit, il a banni les agences privées, il a banni son projet d'hôpitaux privés. C'est un gouvernement qui a promis une chose, qui a clignoté à droite en campagne électorale, puis qui vire à gauche depuis 6 ans. Puis aujourd'hui, on en subit les conséquences. Puis les conséquences, là, sont très concrètes, là. À matin, vous allez payer votre essence, là, 25, 30, 40 cents de plus le litre. C'est 15-20 $ à chaque fois que vous faites le plein. Parce qu'au Québec, on est rendu les dindons de la taxe carbone. On est les derniers au Canada à continuer à payer comme ça. Puis le gouvernement va continuer à augmenter ses revenus parce qu'il est cassé comme un clou.
Une pensée pour les stations-service sur les frontières de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.
J'étais là lundi. J'étais à Gatineau lundi. J'ai pris des photos, là, vous irez voir sur ma page Facebook, là, des écarts de 41 sous. J'ai rencontré des stations indépendantes. Le gars, là, il dit, Éric, même si je vendais à perte, je serais encore plus haut que l'autre bord. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
L'as-tu encouragé ou t'es allé tinker en Ontario?
Ben, j'étais allé tinker. J'ai fait les deux, en fait, parce que je vais prendre des photos, c'est, j'ai pas de mérite. Mais c'était juste pour montrer comment c'est injuste, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis on n'a pas de... Tu sais, c'est tout ça pour bien paraître. On a un gouvernement qui est beaucoup dans les slogans, qui est beaucoup dans le marketing politique, mais dans la gestion des finances publiques, on a probablement le pire gouvernement de l'histoire du Québec, en tout cas pour l'avenir du Québec. Puis là, on parle de gros chiffres, là, mais ça veut dire quelque chose. Parce qu'une dette, là, c'est de l'impôt reporté. Ça veut dire que les jeunes qui ont déjà l'assurance de vivre plus pauvres que leurs parents, là, bien, vont encore moins avoir les moyens de s'acheter une maison.
Et encore plus avec la décote parce que les intérêts augmentent.
Oui. c'est que c'est 500 millions là, d'intérêts de plus qu'on va payer, puis on n'aura rien pour ça. Là. Zéro open bar. Il n'y a pas un service public, il n'y aura pas un hôpital, pas une école. Pas... Pensez-y, là, c'est plus que ce qu'on a payé pour le centre Vidéotron. Juste en intérêt, ça va à des banquiers. Là. On n'a rien pour ça. Juste parce qu'on a des mauvais gestionnaires au gouvernement.
Moi, je prends la balle au bon parce que tu as parlé d'hôpitaux privés.
Oui.
Et j'en reviens pas de l'hôpital Maisonneuve Rosemont, des écureuils, des fourmis, des chauves-souris, des... Ouais. C'est fou de voir que ça se passe là, au Québec. Un hôpital privé viendrait-tu régler la situation dans l'État de Montréal?
Écoute, faut pas, il n'y a pas de solution magique. Il ne faut pas penser que demain matin, tout serait beau, là, mais ça amènerait de la concurrence. C'est ça qui manque dans le système à l'heure actuelle. Ça donnerait de la flexibilité aux travailleurs de l'industrie. Ça permettrait aux patients de choisir. Puis nos exemples, là, c'est des exemples très concrets. Là, c'est des exemples européens où moi, je suis allé là, en Suède, là, tu vas, y a un hôpital privé à côté d'un hôpital public. On pourrait, tu sais, par exemple, la clinique Lacroix, là, qui est en cours là, de l'hôpital Saint-Sacrement, mais ça pourrait devenir un hôpital, ça aussi. Là. Il y aura un hôpital juste à côté. Puis si les délais sont déraisonnables, tu peux aller au privé, puis tu payes avec ta carte d'assurance maladie, il faut le dire. Là. Si c'est moins cher, si Lacroix est capable de l'offrir moins cher que l'hôpital Saint-Sacrement, tu peux aller direct chez Lacroix, puis la carte de crédit, la carte, tu n'as pas besoin de sortir ta carte de crédit, c'est la carte d'assurance maladie qui va tout payer. Donc, il y a moyen de faire ça. Puis on le sait, là, on l'a vu, mettons, au niveau des yeux, au niveau des chirurgies qui sont qui a du privé. Là, le privé qui a de le faire 2-3 fois plus vite, plus pour moins cher. C'est comme dans tout, là, je veux dire, le gouvernement, quand il touche à quelque chose, regardez les coûts de construction qu'un gouvernement a fait, puis regardez ce que ça coûte faire les rénos chez vous, puis vous allez voir l'écart. Là.
Ouais. Monsieur Duhaime, on n'a pas personne une baguette magique, mais dans la situation économique qu'on est en ce moment, peu importe la faute de qui, comment on fait pour retrouver l'équilibre budgétaire dans 3 ans, comme le demande Standard & Poor's?
C'est une très bonne question. La première chose, c'est qu'il faut arrêter... Moi, j'appelle ça les folies vertes. Là. Toutes les subventions qu'on a données, là, le 710 millions à Nordvolt, le 450 millions à Lyon Électrique, le 60 millions à Taiga, je pourrais continuer la liste toute la journée. Il faut arrêter ça. Ça prend aussi une espèce de, un bureau de l'efficacité gouvernementale. Il faut que chaque programme soit revisité. Les folies comme la SAAC, là, qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars, ça aussi, il faut que ça arrête. Là. Donc, il y a des gestes concrets. S'il n'y a pas de révision systématique des programmes, on va nulle part. Donc, ça, c'est un, je pense que c'est important. Puis, il faut vivre selon nos moyens. Il n'y a pas de solution magique. C'est sûr que couper, c'est moins le fun que de couper des rubans puis d'annoncer des bonnes nouvelles au monde puis leur dire que tu vas leur donner des nananes. Mais, tu sais, ce gouvernement-là, là, il a donné l'exemple, même en campagne électorale. Rappelez-vous qu'il donnait des chèques de 500$ au monde. Moi, je faisais du porte-à-porte, là, puis nos candidats conservateurs partout au Québec, on cognait aux portes, là, puis c'était surtout les personnes âgées qui avaient reçu beaucoup de chèques. Là. Tu sais, les gens disaient, OK, M. Legault, il m'a donné 500$, vous me donnez quoi? Tu sais, il faut arrêter d'avoir cette philosophie-là.
Ce momentum-là, hein?
Mais comme électeur, on a une responsabilité. Là. Notre vote, il n'est pas à vendre. Il faut voter aussi pour l'avenir, il faut voter pour la prochaine génération. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'égoïsme chez la CAQ pour essayer de gagner la prochaine élection. Ils sont prêts à acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Et ça, moi, ça va contre ma raison d'être. Là, j'ai écrit un livre, L'État contre les jeunes, il y a plusieurs années. C'est la raison pourquoi je me suis impliqué en politique. Puis ça n'a jamais été aussi pire que ça l'est à l'heure actuelle. Et il y a moyen de faire des choses. On voit partout dans le monde, il y a des exemples où un État est capable de s'en sortir. Mais la première étape, quand tu veux sortir d'un problème de dépendance au fonds public, c'est d'avouer ton problème. Puis ce qui est inquiétant, c'est que dans les derniers jours, on a vu que M. Legault fait exactement le contraire. Non seulement il n'avoue pas ses torts, mais il en est quasiment fier. Il a écrit sur ses réseaux sociaux en fin de semaine que c'était ses convictions. Il en a rajouté en disant que c'était à refaire, il recommencerait. Il était fier de ses choix dans ses entrevue en début de semaine. C'est non seulement totalement inacceptable, mais c'est totalement irresponsable. Puis on a un premier ministre, c'est ça qui est en déroute. Il ne faut pas se surprendre. Là. Dans la région de Québec, là, on était la région l'épicentre de la CAQ. Là. Rappelez-vous que ça a été ici que la CAQ a parti. Là. Puis aujourd'hui, la CAQ s'en ferait pas élire un seul député dans la région de Québec. Puis il y a des bonnes raisons pour ça.
Vous parliez de François Legault, justement. Il était au Canadien de Montréal, le même soir que la décote et que le débat en français au niveau de la campagne électorale fédérale, un grand manque de jugement?
Bien, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il aille s'amuser au hockey. Là. Moi aussi, j'aime le hockey. Moi aussi, j'ai regardé les Canadiens hier soir. Puis moi aussi, quand j'ai regardé le débat, j'avais un œil sur la TV. Il y avait 2 TV dans mon salon.
On était tous les animateurs de boulevard, puis on était positionnés de la même façon. Un œil sur le débat, un œil sur le Canadien.
Fait que je ne reprocherai pas aux autres ce que moi-même je fais. Cela étant dit, le jour où le Québec se fait décoter, une première en plus de 30 ans. Le premier ministre était en gestion de crise. Il n'y avait pas d'affaire à être en train de faire la vague dans le Centre Bell. Là, puis j'avais l'impression que c'était une tentative de diversion, mm-hmm. pour essayer d'attirer l'attention du public sur autre chose, pour essayer de dire, regardez, il se passe d'autres choses. Puis comme si ça passe une éclipse médiatique, là, que ça passe un peu dans l'ombre. Et c'est ça que j'ai trouvé irresponsable de sa part. Puis non seulement cette image-là, mais le discours qui a suivi m'a confirmé que c'était vraiment ça qu'il voulait faire, parce que depuis ce temps-là, qu'il essaie d'être Ponce Pilate, puis il veut se laver les mains. Puis, tu sais, c'est pas une bonne idée là, que François Legault parte après les agences de notation à New York puis commence à dire que c'est lui qui a raison puis les milieux financiers comprennent rien.
Parce que les milieux financiers vont répliquer. Non?
Pire que ça, là, il y a une agence, OK? C'est Standard & Poor's qui vient de nous décoter. Les agences de notation, il y a trois grosses agences sur la planète qui contrôlent 95 % du marché. Ça, c'est les gens qui mettent les cotes. C'est comme vous autres, quand vous allez vous chercher votre hypothèque, là, vous avez une cote, puis dépendamment de votre cote, vous allez avoir un taux d'intérêt plus bas ou plus élevé. C'est la même chose pour les pays. Puis il y a trois agences qui font ça. C'est Moody's, Fitch, puis Standard & Poor's. Là, il y a juste Standard & Poor's qui viennent nous décoter. Mais qu'est-ce qui va arriver avec les deux autres, vous pensez, mm-hmm. que si M. François Legault continue à faire les gros bras puis dire qu'il ne fera rien? C'est pour ça que le Parti conservateur, on dit, ça prend un plan pour rassurer les Québécois d'abord, mais aussi les milieux financiers. Et malheureusement, c'est pas ça. Puis la première chose qu'il faudrait faire, c'est de congédier le ministre des Finances. Parce que je pense qu'Éric Girard a démontré son incompétence. Il est arrivé là, rappelez-vous, là, il y avait un surplus de 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est 13,6 milliards dans le trou.
Fait que 20 milliards de différence.
Puis ce gars-là, là, je le dis que... T'sais, historiquement, là, Éric Girard, c'était supposé être un conservateur. C'était un banquier qui avait été candidat pour les conservateurs de Stephen Harper à une autre époque. Puis il est arrivé au pouvoir, puis il a fait exactement le contraire. Puis ça a été un des pires ministres des Finances. Puis j'ai pas peur de le dire, là. Carlos Slater, qui était là avant, qui était un libéral, qui est encore candidat pour les libéraux de Mark Carney, là, c'est un gars 100 fois plus responsable qu'Éric Girard. C'est un meilleur ministre des Finances et de loin. L'autre, il n'arrive pas à cheville. Et je pense que si François Legault veut envoyer un bon signal, il congédierait aujourd'hui Éric Girard.
On jase là avec les agissements de François Legault dans les dernières semaines, puis sa façon de dire que la décote, c'est des choix. Puis, c'est-tu un gars, mettons que je donne deux options, là, c'est-tu un gars qui veut se représenter comme premier ministre puis essaie de sauver la mise pour rester premier ministre, ou c'est un gars qui essaie de sauver son image personnelle de gars qui va quitter avant les prochaines élections puis dire oh, « Regardez, j'ai fait des bonnes affaires. »
C'est une très, 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 très bonne question, puis c'est la question que tout le monde se pose sur la colline parlementaire aussi. Est-ce que François Legault va être là à la prochaine élection? Puis regardez, là, c'est niaiseux, mais on était 5 chefs au dernier débat des chefs. Là, Dominique Anglade est parti tout de suite après. Là, Gabriel Nadeau-Dubois vient de quitter. OK, on est trois rescapés des 5 de dernier débat des chefs. Est-ce que François Legault est le prochain à sauter en bas du bateau? Je le sais pas. Mais s'il voulait partir, il agirait comme il agit présentement. Puis rappelez-vous de la commission qui a déclenché sur la SAC quand il y a eu le scandale de 1,1 milliard. Ce qu'il voulait beaucoup, là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il voulait sa réputation. C'était important que sa réputation soit pas entachée par un scandale de corruption. Et
donc, il veut pas finir sa carrière là-dessus?
Il veut pas finir sur un flat. Il commence à manquer de temps, là, parce que s'il veut partir, il faut qu'il parte, puis il faut qu'il laisse du temps pour qu'il y ait une course au leadership, qu'il y ait un budget, qu'il y ait une autre équipe qui se mette en place. Ça prend des mois. Là. Ouais. Tu peux pas faire une course à la chefferie en l'espace de quoi qu'à Ottawa, ils viennent de le faire, là, mais c'est la première fois, je pense, depuis très longtemps. Puis tu gagnes pas la 1649 à tous les tirages. Là. Fait que, faut pas penser que c'est un modèle. Mais s'il décide de quitter, il va falloir qu'il l'annonce très bientôt. Je pense que, pour revenir à ta question de base, là, d'ici l'été, d'après moi, on va avoir une meilleure indication si oui ou non il va rester.
Je termine avec élection partielle dans Arthabasca. Oui. Est-ce que tu as l'intention de te présenter ou tu vas attendre les élections générales parce que la région de Québec va être fertile?
Là, je vais te répondre une réponse très agréable. Ouais. C'est qu'il va falloir que tu me réinvites. Parce que...
tu sors pas en cassette de politicien.
Non,
là.
Pire que ça. Le 4 mai, donc c'est quand même pas loin.
Ben oui, c'est pas loin.
Le 4 mai à 14h au pavillon Arthabasca à Victoriaville, je vais présenter la personne qui va être candidate pour le Parti conservateur du Québec dans Arthabasca. Donc, il faut patienter un petit peu. Puis tout le monde est invité. Là. Les conservateurs qui nous écoutent, là, 4 mai au pavillon Arthabasca à Victoriaville à 14h, soyez là. On va faire la grande annonce. C'est une élection partielle très importante parce que, effectivement, c'est un comté où le Parti conservateur avait bien fait. On avait fini deuxième. Les sondages nous mettent présentement nez à nez avec le Parti québécois. Ça pourrait être l'endroit où on fait la rentrée à l'Assemblée nationale. Puis c'est quelque chose d'un peu paradoxal puisqu'on a toujours été vu comme un parti très fort à Québec. Puis là, c'est dans le centre du Québec qu'on risque d'être d'avoir la première grosse victoire. Mais on va mettre beaucoup d'efforts. On va faire une vraie campagne et on espère que les électeurs vont être au rendez-vous. Vous savez, il y a 530 000 Québécois. 13% de la population qui n'a aucun représentant sur 125 à l'Assemblée nationale. C'est la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Arthabaska pourrait sauver la mise puis pourrait permettre à 530 000 Québécois d'être entendus à l'Assemblée.
Bon, bien, c'est noté 4 mai 4 et mai. Réinviter Éric Duhaime, chef
oui,
du Parti conservateur.
Oui, 5 mai au matin, il faut choisir ici.
C'est parfait.
Merci. On s'organise.
C'est quoi? 5 mai au matin, Éric Duhaime sera avec nous. Monsieur Duhaime, merci beaucoup de la visite de la Jazette ce matin. Toujours
bye.
Apprécié.
Salut.
On suit une nouvelle, une situation importante à l'aéroport. Par Pearson à Toronto?
Oui, non, c'est gros ce qui se passe. Puis on ne sait pas exactement. Il y aurait eu des coups de feu entendus. Beaucoup, beaucoup de policiers qui se sont dirigés rapidement sur place, des ambulanciers aussi. Fait qu'on est encore pas mal dans le néant par rapport à ce qui se passe, mais c'est une importante opération policière à l'aéroport Pearson de Toronto.
Merci, Max. On suit ça de près. On vous tient au courant et on se retrouve dans les prochaines minutes. Jusqu'à